Alors bonjour, aujourd'hui dans Parlons Ferme, dans les Spotify de la vie agricole et sur le site de la vie agricole, vous allez retrouver en fait une entrevue fort intéressante parce que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, vous en voyez parler, la vie agricole parle du monde du cheval. C'est un des secteurs agricoles dont on parle beaucoup en ce moment, entre autres parce qu'on a eu des informations comme quoi il y avait un petit peu de bisbille, on va dire, notamment dans le domaine du cheval de course, qui a été un peu levé par l'association du Trot et Amble. Et on voulait en fait avoir aussi la perception du club jockey de Québec. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Sophie Mongeon. Maître Sophie Mongeon, vous êtes avocate et vous êtes présidente de Club Jockey Québec, c'est bien ça?
Oui, c'est bien le Club Jockey du Québec, oui, effectivement.
Club Jockey du Québec. Alors, Madame Mongeon, on va aller direct dans le sujet. Vous avez certainement suivi les informations qu'on a divulgué, en fait, où on se rend compte qu'il y a comme une distorsion un petit peu entre ce que vous semblez percevoir, d'après le courriel que vous m'avez envoyé, et ce que l'attaque prétend. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la situation du monde des courses hippiques en 2024 versus un petit peu les ambitions qui avaient été dévoilées dans vos rapports de 2009? 15 ans plus tard, comment vous percevez ça, vous, en fait?
Mais c'est sûr que c'est décourageant, puis qu'on est déçu de ne pas pouvoir présenter plus de courses aujourd'hui au Québec en 2025. Ça, c'est clair. Je pense que c'est pas l'objectif du Club Jockey de garder ça à 40 programmes par année, mais l'objectif était effectivement, quand il y a eu la relance des courses en 2012, quand le Club Jockey a acheté l'hippodrome de Trois-Rivières, c'était de redonner les belles années de gloire à notre industrie. Malheureusement, on va se rappeler qu'il y a eu beaucoup de bisbilles lorsque les courses ont finalement fermé en 2009 au niveau de Blue Bonnet. Mm-hmm. Donc, je pense que quand on a réouvert ça, je pense qu'on avait encore l'idée de licorne là, qu'on réussirait à ramener les belles journées là, de l'époque de Blue Bonnet.
Mais d'ailleurs, moi, ce que j'entends dire quand je parle avec des gens du milieu, là, pas seulement avec l'attaque, mais avec pas mal de monde dans le milieu, en région, qui ont des chevaux, qui ont connu cette heureuse époque de Blue Bonnet, tout le monde nous dit « Ouais, mais les jockeys sont partis. Les entraîneurs sont partis, tout le monde est parti en Ontario, parti aux États-Unis, à New York, dans l'État de New York. Est-ce que c'est réellement la fermeture de Blue Bonnet? Est-ce que les politiciens, les autorités n'ont pas su répondre à ce besoin qu'on aurait pu garder cette vie économique dans les régions du Québec?
Mais il y avait des propositions pour garder les courses vivantes au Québec en 2004, etc. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'attaque, la même attaque aujourd'hui, avait refusé les offres de Pauline Marois. C'est ça qui a mené à la fermeture de Blue Bonnet en 2009. Donc, quand on a tenté de réouvrir le tout en 2012, comme je vous disais, on avait en tête là, l'idée qu'on était capable de ramener ça aux belles époques, mais malheureusement, les temps ont changé. Tu sais, quand on regarde là, les articles de journaux lorsqu'il y a eu la fermeture, c'est clairement indiqué l'État n'a pas les courses de chevaux comme priorité actuellement.
Oui, mais allez-y.
Donc, à ce stade-ci, lorsqu'en 2012, on essaie de réouvrir les pistes, on refait la même stratégie qu'autrefois. C'est-à-dire qu'on compte sur l'aide gouvernementale. On espère justement qu'on va avoir des bourses. On pense qu'on va avoir à ce moment-là une ristourne sur les AVL, là, les appareils de loterie vidéo, les ALV. Et c'est ça que la tentative qui a été faite, mais malheureusement, c'est un sport où il y a plusieurs personnes pensent qu'il n'existe même pas encore au Québec. Fait que c'est pas mal plus difficile qu'on aurait pu l'espérer.
Mais quand vous dites finalement la priorité des gouvernements n'ont pas été les courses de chevaux autour de 2004, 2005, 2007, probablement, il y a plusieurs histoires à ça. Certaines personnes nous disent effectivement ça s'est mal passé à l'époque de Pauline Marois. Il y a peut-être même une bisbille entre Pauline Marois et Bernard Landry. D'autres nous disent non, c'est plutôt Jean Charest avec Massicotte. C'est sûr que ça, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de troubles, en fait, autour de ça. Mais au final, le constat d'aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'il y a moins de jockeys, moins d'entraîneurs. En tout cas, ils sont québécois, mais ils sont plus au Québec. J'entends dire qu'en Ontario, il y a des machines dans les hippodromes qui financent en partie les hippodromes. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas au Québec?
C'est ça ma question. Mais c'est faux, ça. C'est ça le problème, là. Effectivement, actuellement, les machines, par exemple, à Woodbine, ils n'ont pas de ristourne du tout sur les machines. C'est une location, tout simplement, avec un don du gouvernement de 100 millions par année. Nous, là, on a perdu ce droit-là quand on a fermé les courses en 2009. Donc, à ce stade-ci, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'écoute. Donc, si on veut réussir à ramener notre sport ici au Québec, dans un premier temps, il faut absolument rajeunir notre auditoire. Mm-hmm. Parce que là, actuellement, 60 % des gens qui sont inscrits sur notre plateforme de Paris ont plus de 60 ans. Alors, pourquoi qu'actuellement, le gouvernement nous donnerait de l'argent? Pourquoi l'Auto-Québec recommencerait à nous donner un pourcentage des ALV? Pourquoi tu ferais ça? On est un sport qui n'est pas connu. Sport, il est vieillissant. Mais vous êtes... C'est ça qu'il faut changer avant tout. Une fois qu'on réussit à faire ça, là, on va être capable de ravoir des fonds.
Vous êtes sous la gouverne, en fait, de l'Auto-Québec, de la Régie des Jeux, en fait. Donc, c'est effectivement dans le même groupe que l'Auto-Québec. Est-ce que l'auto, finalement, a pris le dessus? Mais on essaie de comprendre, parce que quand on regarde en Europe, notamment en France, et particulièrement en Normandie, je viens de là, donc je sais très bien comment ça fonctionne, le PMU, les hippodromes. Quand on voit les happenings qui s'organisent dans les hippodromes autour des chevaux, comment la population aime venir à ces événements festifs, comment se fait-il qu'on n'arrive pas au Québec à ramener justement de la population pour le pari, mais pas seulement pour le pari, pour comprendre la dynamique de la course, en fait?
Bien, dans les dernières années, depuis la réouverture de l'hippodrome suite à la pandémie, on se rappelle, ça nous a fait mal, 2020, 2021, etc. Mais depuis le retour d'après la pandémie, notre hippodrome, il est plein. Le dimanche, là, c'est un happening, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est vraiment fantastique. Je profite de l'occasion pour vous inviter à venir. On a des fidèles qui sont toujours au poste avec une bonne clientèle. Donc, on voit qu'il y a un engouement qui reprend actuellement à Trois-Rivières, puis on en est vraiment, vraiment fiers. Sauf que pour réussir à ravoir les sommes qu'on avait à l'époque, avant la fermeture, pour payer des bourses, c'est plus difficile que prévu. Et encore, la vieille recette là, qui était demandée, c'était de l'aide gouvernementale. Le fait que l'aide gouvernementale n'est pas présente, parce qu'on a perdu des années complètes à essayer de la ravoir, on a même engagé un ancien employé de l'Auto-Québec qui faisait du lobbying pour nous permettre de ravoir de l'argent. On a même engagé aussi un monsieur qui était très, très habile au niveau du sport, qui avait été directeur d'une station de sport qu'on connaît très bien. Et lui aussi s'est confronté au fait que les commanditaires ont plus ou moins d'intérêt parce que c'est considéré comme du vice, hein, c'est du pari. Et également, c'est aussi un sport avec des animaux, donc des fois, les commanditaires sont un petit peu frileux. Oui. Donc, c'est ça nos embûches.
Oui, mais c'est aussi à l'industrie de démontrer, ben, comme dans tout domaine, en fait, que le bien-être animal est respecté. C'est à l'industrie de démontrer, en fait, oui, qui peut-être vice, on peut dire vice, mais on peut dire aussi jeu sportif, événement. Ça dépend de la perception qu'on peut avoir des choses. Dans la vie, toute chose a une perception. Mais ce que j'aurais envie de dire, vous me dites, depuis Blue Bonnet, c'est un peu une catastrophe, c'est un peu la déchéance depuis Blue Bonnet. Est-ce qu'il y a eu des efforts de fait? Parce que Blue Bonnet, finalement, ça a été une erreur. D'après tout le monde nous dit que ça a été une erreur. Mais est-ce qu'il y a moyen de relancer un projet, pas forcément à Montréal, mais dans les Laurentides ou en Montérégie ou autour de moi, quelque chose de plus central au Québec pour dire, en plus de Trois-Rivières, ça prendrait un gros hippodrome?
Monsieur Patelli, pour l'instant, c'est rêvé en couleur. Là, on a actuellement un hippodrome qui est au centre de la Mauricie, qui effectivement est entre Montréal et Québec, qui est un joyau, le plus vieux hippodrome de l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Fait qu'avant de commencer à exploiter d'autres sites, il faudrait s'assurer de rendre celui-ci rentable. Donc, c'est ça notre objectif, de le rendre rentable. Et on a on réinvente la roue. Là. Au mm-hmm. lieu de tout le temps chanter la même cassette, là, la cassette qui vous a été chantée par l'attaque, là, malheureusement, donc, on innove en essayant de transformer notre hippodrome en amphithéâtre, donc où on ferait des shows extérieurs, à la Blue Bonnet, là, le U2 de l'époque. Là. En même temps, notre hippodrome n'a jamais été aussi plein. On fait des activités pour le rendre intéressant, parce que partout ailleurs, il n'y a personne dans les estrades. Nous autres, notre hippodrome, il est fantastique. Il est vraiment beau. Il faudrait que vous veniez le dimanche.
Alors, on va y venir assurément. Mais en fait, avant de venir d'ailleurs sur des solutions ou des visions, aussi sur ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu de la part de l'attaque aussi, il y a quand même un point un petit peu dérangeant. En fait, on entend dire en fait, que c'est un peu flou. D'abord, vous voulez renégocier, je pense, vos ententes avec l'attaque. Vous leur donnez trop d'argent, je voulais diminuer ça. Mais puis en fait, l'attaque semble dire de leur côté qu'il y a comme des conflits d'intérêts potentiels parce que votre vice-président, à qui on a écrit d'ailleurs, M. Corbeil, mais pour lequel je n'ai pas eu de réponse pour l'instant, lui serait comme à la fois dans les centres de Paris, à la fois dans les chevaux, à la fois dans l'organisation. Il serait un peu partout, en fait. Ça, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est traditionnel de faire ça ou vous avez un malaise avec ça?
Ben, pas du tout. Là, vous avez trois volets à ce que vous venez de me dire. Là. Vous venez de me dire, premièrement, on veut renégocier l'entente avec la TAC parce qu'effectivement, on leur donne 85 000 $ par année, alors qu'ils n'ont pas, selon notre vision des choses, cet argent-là, ils n'en ont pas vraiment besoin. Il n'y a pas vraiment d'employés. À l'époque, quand il y avait une entente qui avait été négociée, il y avait un local, il y avait des employés, mais maintenant, ils n'en ont plus. Alors, sur ce 85 000 $-là, si je suis capable de rapatrier 50 000, je suis capable de donner un programme de plus. C'est tout simplement ce que je leur ai demandé pour mettre l'épaule à la roue. Ça, c'est le premier point. Mm-hmm. Le deuxième point, ce que vous dites, c'est qu'une loi d'omerta au club jockey, je pense, M. Patelli, qu'on vous raconte du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que cette année, on a ouvert nos livres complètement au président de l'ATAC, M. Mm-hmm. Reed, où il y a eu accès à toute la comptabilité d'un salon de Paris. Dans un courriel qu'il nous a adressé lui-même en avril 2024, il finit par dire « Écoute, j'ai pris connaissance des salons de Paris parce qu'on a offert d'en vendre un à ces gens-là qui l'opèrent, donc à vous hommes à chevaux. » Et ils ont refusé en disant « La clientèle n'est pas là. Maintenant, le jeu est transféré sur les plateformes plus de, en ligne. Il n'y a pas personne qui veut l'acheter parce que ce n'est pas rentable. »
Mais ce que je comprends, par contre, de M. Reed ou des gens de l'ATAC, les administrateurs de l'ATAC qui nous ont contactés ou qui ont laissé passer de l'information, je comprends aussi que eux, ce qui semble leur poser problème, c'est qu'il y avait, il y avait une vision en 2009. En tout cas, je pense qu'il y a des documents qui ont été écrits qui disent que le CJQ, Club Jockey Québec, a une vision de développement pour les prochaines années. On est 15 ans plus tard, c'est pas forcément développé comme c'était prévu. Puis, parallèlement, ce que je comprends, c'est qu'en Alberta, on annonce un programme de 16 millions il y a quelques semaines. Dans l'État de New York, ça va très bien. En Ontario, ça va... En fait, tout autour, ça va bien, sauf au Québec. C'est ça qui est bizarre.
Bien, ça, c'est un petit peu faux, là, ce que vous venez de dire. Là. Parce qu'à travers le Canada, il y a eu une perte, une diminution de 22 millions du pari en général. Donc, ce n'est pas vraiment nécessairement chez nous qu'on a des difficultés. Actuellement, à la Nouvelle-Écosse, il y a une diminution de 14 % Et l'île du Prince-Édouard, ils ont une diminution de 8 % des paris. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. La seule différence, c'est que les autres provinces ont été peut-être plus intelligentes que nous dans le passé. Mm-hmm. Et effectivement, ils n'ont pas coupé les liens avec le gouvernement. Nous, c'est ce qui s'est passé et on n'est pas capable de les récupérer.
Mais est-ce que c'est qui a coupé les liens? Parce que moi, j'ai toujours entendu dire que c'était le gouvernement qui avait lâché, en fait, le club jockey, qui avait lâché la taxe. Je ne sais pas si c'est les libéraux ou les péquistes, parce que je pense que c'est un peu tout le monde, mais c'est les gouvernements qui ont lâché. Est-ce que c'est les gouvernements qui ont lâché ou c'est les associations de chevaux qui ont fermé la porte?
Les hommes à chevaux ont été très avares, là. Ils ont été très greedy, là. Il y avait une offre d'une trentaine de millions de dollars en centralisant toutes les opérations à Montréal. Ils n'ont pas voulu. Ils voulaient garder les quatre sites ouverts, les quatre hippodromes. Et en voulant trop à l'époque, alors que l'industrie était un peu en difficulté, ça a été notre perte. Donc, morale de l'histoire, on a perdu le contact avec le gouvernement. Honnêtement, que ce soit la faute des hommes à chevaux, la faute du gouvernement, on est devant le fait accompli. Fait qu'en 2009, quand le club jockey reprend ça, il est de bon espoir et il dit « c'est beau, on va refaire les liens ». Mais ce n'est pas le cas. C'est pas par manque de tentative du club jockey. C'est certainement pas par manque non plus des membres de l'ATAC également qui ont fait des efforts. Mais ceci étant dit, on n'est pas considéré comme une industrie de valeur pour l'instant. Et tant aussi longtemps qu'on ne montre pas qu'on est une industrie de valeur, on n'a pas, c'est la sourde oreille. Puis, fait que notre objectif, c'est de remettre ça sur la plateforme, alors, intéresser les gens, diversifier notre offre. Puis une fois que ça s'est fait, on va être capable probablement d'aller rechercher un soutien gouvernemental, mais jamais à la hauteur de ce qui s'avait été.
Alors justement, si on se met dans des modes solutions, parce que moi, le monde du cheval, je le connais de l'extérieur, parce que je vous le dis, j'ai vécu en Normandie, je connais bien les hippodromes, je connais un peu les entraîneurs, les jockeys dans ce coin-là. J'ai quand même assisté aussi à des événements au Kentucky, parce que j'ai suivi la compagnie Altec pendant une période qui avait des chevaux, qui organisait des événements, et je suis allé aux Jeux équestres mondiaux en France, qui ont d'ailleurs failli venir au Canada. Donc j'ai vu quand même le fonctionnement du monde des chevaux, et ce que je remarque au Québec, parce que je circule beaucoup en région, et je vois quand même des gens, dans le monde du cheval, ce qui marche, c'est le western, c'est les chevaux de tourisme, c'est les chevaux pour l'équithérapie, en fait. Est-ce que finalement, vous diriez que vous êtes comme enfermé dans votre domaine? Est-ce qu'il faudrait ouvrir, en fait? Est-ce que le monde du cheval, c'est pas plus large que les courses? Est-ce que c'est pas l'erreur dans votre image de vous être enfermé sur les courses?
Je ne suis pas sûre de comprendre votre question.
Dans le sens que les chevaux au Québec, le monde du cheval au Québec, ce n'est pas juste les courses. Le monde du cheval au Québec, ça fait vivre des régions, effectivement, quand il y a des hippodromes. Mais quand il n'y a pas d'hippodrome, il y a toujours bien des chevaux. Il y a beaucoup de chevaux au Québec, il y a plus de 100 000 chevaux. Donc, en fait, il y a des chevaux de touristes, il y a des chevaux qui font de l'équithérapie, il y a des gens qui l'ont pour le western. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a un manque de synergie entre tous ces mondes-là pour justement vous aider, vous, à éclore?
Mais c'est un monde totalement distinct. Je pense que c'est plus du loisir, les autres sports que vous nous avez mentionnés. C'est plus un sport, oui, certes de loisir, mais aussi c'est une façon pour certaines personnes de gagner sa vie. Je pense que la synergie est difficile à mettre avec tous les autres domaines du sport équestre. Je pense qu'il y a des
chevaux, il y a de l'équestre aussi, en fait, à Bromont, c'est bien connu. Il y a eu un salon du cheval à Saint-Hyacinthe longtemps qui n'existe plus. C'est pour ça que je vous dis, le monde du cheval, il est pas monolithique, le monde du cheval. Mais on dirait que chacun est un petit peu dans son domaine, et c'est peut-être ça qui vous manque dans votre échange avec les gouvernements, les autorités.
Mais c'est pas pareil. Au niveau équestre, dans le fond, ce que tu vas gagner, c'est des rubans. Nous, c'est vraiment la bourse, là, c'est plus au niveau d'un sport avec Paris, donc avec des bourses qui sont essentielles. Fait que c'est vraiment comme c'est comme différent, là. Je pense pas qu'on peut faire l'association.
Puis au regard du constat actuel, qui est vraiment pas brillant, on va dire, si j'entends ce que j'entends pour l'instant, puis même vous le dites en début d'entrevue, que finalement, vous avez beaucoup, beaucoup perdu de terrain. C'est quoi les actions? C'est quoi les actions qui vont se faire? Puis comment vous allez vous réconcilier d'une part dans le monde du... Si vous ne parlez pas aux autres mondes du cheval, il va falloir que vous parliez entre gens de chevaux de course, donc vous et l'attaque, il y a à peu près, avec les propriétaires de chevaux, avec l'attaque, le CJQ, comment vous faites pour recréer quelque chose qui va faire un wow, puis que les gens vont croire en vous?
Bien, en prenant dans un premier temps, là, nous, on n'a pas de conflit avec l'attaque. Ça, je veux juste mettre ça au clair. S'il y a un conflit, vous me l'apprenez, puis c'est entretenu de leur côté. Cette année, on a travaillé très, très fort, là, justement, pour se serrer les coudes, justement, nous. Je pensais l'attaque et le circuit régional pour essayer de trouver des solutions pour faire des modifications législatives. D'ailleurs, on a envoyé un courriel au ministre, je pense, des Finances, c'est lui qui est en charge, M. Bonnardel, là, pour essayer de faire des modifications à certains règlements qui pourraient nous donner un petit coup de pouce. Ensuite, on espérait, effectivement, agrandir le circuit régional qui est un peu nos courses amateurs pour essayer d'intéresser les gens. Mais on a une pénurie de pistes de course, donc ça, c'est problématique aussi. Fait que même si on voulait faire ça, on est pris devant ce fait accompli-là. Donc, étant donné qu'on est la seule province au Canada qui n'a pas de soutien gouvernemental et avec les efforts qu'on a faits, on voit que pour l'instant, c'est pas possible. Mais là, on essaie de trouver d'autres solutions. Par exemple, une course à lance qui, dans certaines autres provinces, peuvent arriver. C'est comme une loterie maison, là. Mm-hmm. On met pas tous nos œufs dans le même panier, là. Mais c'est une action de plus pour essayer de ramasser des sous. Et tout le résultat de la Lucky Perfecta que vous pouvez aller acheter sur notre site de l'hippodrome est au bénéfice des courses. Ensuite, on est en train justement de regarder avec des partenaires pour en faire un amphithéâtre, ça va de bon train. Si c'est le cas, on pourrait recevoir, comme je vous disais, des spectacles qui seraient des sources de revenus étrangères et qui nous permettraient aussi d'obtenir des subventions et des dons, mais via plus un organisme de spectacle qu'un organisme de Paris ou de jeu. Parce que chaque subvention, tout ce qui est salon de Paris ou de jeu, ben on n'en a pas. C'est pas prévu nulle part dans aucune loi, là. C'est les actions qui sont prises.
Mais peut-être pour terminer, parce que vous êtes dans l'écosystème de la régie des jeux, en fait, qui est une régie gouvernementale. Est-ce que vous allez exiger, mais quand même, qu'il vous donne un coup de pouce, parce qu'en fait, il y a des budgets éventuellement à la régie des jeux, s'ils veulent remettre sur la map. D'ailleurs, dans un monde, en fait, où on nous dit souvent que dans les dernières années, de problèmes de santé mentale par rapport aux jeux en ligne, par rapport à ci, par rapport à ça. Est-ce que le pari sur le cheval, c'est pas quelque chose de pas mal plus sain que le pari en ligne ou que les salles de paris, parce que finalement c'est à l'extérieur, c'est avec des chevaux, c'est un contact avec l'animal, c'est une vie sportive, c'est un peu différent quand même que le jeu en ligne.
Bien, absolument, vous avez bien raison. Moi aussi, votre 2 $ là, va durer 20 minutes, là, beaucoup plus longtemps que de le mettre dans une machine à loterie, là. Mais vous comprenez, la régie des alcools, des courses et jeux, eux, ne peuvent pas nous subventionner rien. Ce n'est qu'un organisme qui s'assure là, que tout est bien géré.
Sans vous subventionner, ils ne font pas beaucoup d'efforts de publicité non plus pour vous remettre sur la map.
Ben, ils peuvent pas faire de la publicité pour nous, là. C'est comme un tribunal, là. C'est pas, ils sont pas d'aide, là. Les seules personnes qui pourraient vraiment nous aider comme telles, c'est l'Auto-Québec qui, par exemple, pourrait nous donner des commandites ou, à l'époque, quand on avait des machines à Blue Bonnet, nous donner un pourcentage. Mais ça, là, ça reviendra pas, là. Tu sais, là, pour l'instant,
Si vous faisiez front l'attaque, là, parce que vous dites qu'il n'y a pas de conflit avec l'attaque. Il y a des bisbilles, là, mais il n'y a pas de conflit. Si l'attaque et le CGQ s'assoient et disent, regarde, nous, on va aller devant l'Auto-Québec, on veut de la pub, on va la régie des jeux, on veut faire changer les règles. On est ensemble, on est tous ensemble, on va changer les choses. Vous pensez que ça ne marchera pas?
Bien, on le fait. Ça fait plusieurs années, là, depuis 2009, qu'on essaie de le faire, là, et c'est sourd oreille chez l'Auto-Québec là, actuellement. Là. Fait que ceci étant dit, là, pour l'instant, ça ne donne rien de cogner à cette porte-là. On se revire de bord. On est souverain chez nous. On a un hippodrome qui vaut un minimum 11 millions au plein centre de la Mauricie. Et j'ai le goût de vous dire une chance que c'est un organisme sans but lucratif qui en fait la gestion. Parce que d'autres hippodromes qui ferment actuellement, c'est parce que des fois, les propriétaires sont des propriétaires privés qui sont en train de vendre les terrains pour de l'immobilier. Donc, nous, on est souverain actuellement. On vit sans aide gouvernementale depuis maintenant plus de 13 ans. On en est très fiers. On va continuer en ce sens-là. Puis, on va montrer ce qu'on est capable de faire. Et après ça, les fonds vont venir naturellement. Mais pour l'instant, c'est une industrie où ce que plusieurs personnes disent qu'ils ne savent même pas que ça existe. Fait que là, le travail là, actuellement, là, c'est pas lancer personne en dessous de l'autobus. Notre travail actuellement, là, c'est de démontrer qu'on est une industrie qui contribue à la société, augmenter l'intérêt, rajeunir notre clientèle et essayer de ramener ce monde-là sur nos plateformes de paris en ligne qui est HPI Bet ou bien dans nos salons de paris. Et là, dans nos salons de paris, eux autres aussi ont beaucoup de difficultés actuellement. Alors, on va se dire les vraies affaires.
Ben justement, pour conclure sur les salons de paris, est-ce que M. Guy Corbeil ne devrait pas lui-même aussi sortir, expliquer, s'exposer un peu? Parce que moi, j'entends beaucoup de choses au sein des propriétaires de chevaux, de l'attaque, ces doubles emplois, on va dire, en fait, qui sont peut-être très légaux, en fait, mais qui mettent des doutes et qui a permis d'utiliser des termes comme omerta, comme flou. Est-ce que, finalement, il se cache trop? Il faudrait qu'il s'expose plus, qu'il nous explique s'il ne fait que des choses positives. Est-ce qu'il ne devrait pas venir en avant-scène pour les expliquer?
Mais tu sais, monsieur, là, quand monsieur Patali, là, on vous dit qu'il y a un conflit d'intérêts. Hein? Où ça? Où est-il? Où est-il? Que cause-t-il? Non, fait-il?
C'est la question que je pose. En fait, parce que dans les propos de l'attaque, c'est parce qu'il est comme sur plusieurs. Il est à la fois au l'hippodrome, il est à la fois propriétaire, il est à la fois dans le Jockey Club. C'est parce qu'il aurait comme plusieurs rôles. C'est ça la question qui a été posée par l'attaque, ce que je crois comprendre.
Ben oui, je comprends, mais je ne sais pas pourquoi qu'il dit ça. Entre vous et moi, ce monsieur-là, il est vice-président puis membre fondateur là, du Club Jockey. Une chance qu'il a fait partie des hommes d'affaires qui ont réouvert l'hippodrome de Trois-Rivières en 2012. Une chance. Par la suite, effectivement, il est vice-président du Club Jockey. On lui reproche qu'il prend des décisions. Mais monsieur, il est vice-président du Club Jockey, c'est
oui,
sûr.
Mais je pense que...
Ensuite, il y a des chevaux.
Oui, et des
c'est
salons.
Normal.
Et des salons de Paris.
Oui, mais il n'en retire aucun bénéfice. Ça ne change rien qu'un Salon de Paris. Une chance qu'on a des gens qui sont intéressés aux chevaux, qui sont propriétaires de Salon de Paris. Parce qu'actuellement, pour avoir un salon, au départ, quand tu voulais avoir un salon des machines, il fallait que tu aies un Salon de Paris. Mais aujourd'hui, là, j'ai 2 Salons de Paris qui sont sur le bord de changer leur course parce que c'est trop compliqué puis ils sont dans le négatif pour des tables de poule puis du Kinzo. Si on met de la pression davantage sur nos salons de Paris, c'est un revenu de 2,2 millions qu'on risque de perdre. Et de dire qu'il y a une loi d'omerta, monsieur, je ne sais pas où est-ce qu'on vous dit ça, on a ouvert tous nos chiffres à l'attaque. Fait que ça, c'est quand on dit « ils disent », c'est qui « ils » C'est personne. Il n'y en a pas de conflit d'intérêts. C'est un mot qui est lancé en l'air alors qu'il n'y a aucune preuve concrète de ça. Au contraire, M. Corbeil là, a des ententes avec le gouvernement. Il est un homme respecté des Laurentides. Une chance que lui, il y a un salon de Paris, parce que sinon, il y a des offres pour en acheter un. Mais les personnes qui veulent l'acheter, le salon de Paris, veulent fermer les courses.
Alors, maître
Est-ce que vous
Mon,
comprenez?
je comprends très bien votre réponse, mais en fait, je vous pose les questions parce que les questions fusent un peu de partout en provenance entre de l'attaque. Mais j'entends ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de conflit, selon votre lecture, entre le CJQ et l'attaque. Donc, c'est quand même en soi une bonne nouvelle. En fait, on va pouvoir échanger les prochains mois. On ira vous voir à Trois-Rivières. On va espérer une chose, c'est que les gens des mondes des chevaux de course, que ce soit le Club Jockey du Québec, que ce soit l'attaque, que vous ayez en fait une sorte de synergie. Parce que l'objectif là-dedans, ce serait quand même bien que vous soyez capable de renouveler votre clientèle et de relancer les courses au Québec comme ailleurs dans le monde et comme ailleurs au Canada.
Bien, je suis du même avis que vous. Me voyez-vous surpris quand l'attaque dit qu'il y a un conflit alors qu'on a engagé le président, on l'a engagé pour devenir secrétaire de course pour effectivement s'assurer d'une transparence. Ils ont vu toutes les chiffres d'un salon de Paris. Ils travaillaient en concert avec nous pour faire des modifications législatives. Fait que nous, besoin de vous dire là, que la sortie ici qui dit qu'il y a un conflit, là, c'est seulement eux qui l'entretiennent. Et en faisant ici, malheureusement, ils nuisent à l'industrie des chevaux de course alors que c'est quelque chose qui est fantastique puis on devrait le mettre de l'avant et on devrait en parler, mais de façon positive.
Alors, Maître Mongeau, si vous nous avez invités, prochain happening à Trois-Rivières, on sera là.
Ça me ferait plaisir de vous recevoir et de vous montrer nos excellentes installations.
Merci, bonne journée à vous.
Merci à vous.